avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque semaine. Les devoirs à la maison aujourd'hui, ah, c'est souvent une source de stress, de conflits entre les parents et les enfants. Alors si votre enfant a du mal à travailler seul, à s'organiser et que vous ne parvenez pas à vous transformer en super enseignant à la maison, c'est normal, ce n'est pas votre métier. Appelez-nous pour poser toutes vos questions en direct, notre compte WhatsApp, c'est toujours le même, 33 7 64 45 51 41. Notre invité est dans le studio de RFI chez 7 milliards de voisins. Bonjour Anne-Marie Guignard.
Bonjour, bonjour les voisins.
On est ravis de vous retrouver dans l'émission. Vous avez mis au point une méthode pour redonner confiance aux enfants, pour guider les familles vers un quotidien plus serein. Vous êtes pédagogue, formatrice, engagée dans la lutte contre la détresse scolaire des parents et des enfants. Et vous êtes surtout connu d'ailleurs pour vos livres sur l'orthographe avec votre héros Hugo. Et là, vous renouvelez l'expérience, toujours Hugo, une nouvelle histoire avec Hugo qui prend son envol. C'est un conte pour apprendre à travailler seul. Il y a une histoire pour les enfants, il y a des conseils pour les enfants, des fiches pratiques aussi pour les enfants et les parents. En fin d'émission, la chronique du psychologue Ibrahima Girou à Dakar, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, comprendre l'angoisse des jeunes devant leur avenir. Mais tout de suite, reportage dans le monde de la patience. Les devoirs racontés par Adrien, 11 ans, et Louise, 7 ans, qui, elle, est en train de faire une dictée avec son père, Gaël.
Allez. La camionnette est cassé. La camionnette est cassée. C'est bon, t'as fini là?
Attends.
T'as pas fini? Je vais prendre le tramway.
Tramway. C'est bon, papa.
Il y a une faute à camionnette, non?
J'ai cru dire n'importe quoi. Camionnette, n'importe quoi.
C'est quoi la faute que tu as faite?
J'ai écrit caminette et j'ai oublié le O, mais ça c'est vraiment une grosse, grosse faute.
Alors, tu viens de faire une dictée. Tu veux dire que tu dois apprendre des mots, et papa il en profite pour t'apprendre aussi la conjugaison, les accords.
Ah oui.
Et alors vous l'aidez souvent pour ses devoirs?
Oui, je l'aide souvent parce que ça nous permet aussi de passer du temps ensemble. Tous les soirs, en fait, soit elle fait seule, et puis je vérifie avec elle, sinon je vérifie juste qu'elle ait bien compris. En CE1, ils n'ont pas beaucoup de devoirs. Généralement, c'est quelques mots à apprendre et puis une petite poésie ou de la lecture. C'est un petit rituel. Après, je pense qu'en CE1, effectivement, c'est pas facile d'être autonome. Mais je trouve quand même qu'on passe plus de temps à contrôler ce qu'elle a fait seule qu'à le faire avec elle.
Et alors là, donc, tu as ouvert ton cahier.
Et du coup, tous les mots où il y a des croix, on doit les apprendre.
Tu m'en lis quelques-uns ?
Un vélo, une moto, une voiture, un camion, un train, un bus, le métro. Il y en a 10 d'habitude et après on fait des petites phrases pour apprendre les mots et tout et tout. En fait, c'est mon cahier. Là, je te montre. Ça, c'était quelque chose d'autre.
Qu'est-ce que ça t'inspire, le moment des devoirs ?
En fait, j'aime pas énormément faire les devoirs comme beaucoup d'enfants. Une fois, par exemple, tellement j'avais pas le temps, j'ai oublié de la poésie et j'ai pas pu l'apprendre. Faut que je te montre ma poésie. C'est celle-là. Ça s'appelle Gratte-ciel. Et en fait, on fait de là à là. Après, on a fait de là à ici.
Mais
en fait,
c'est trois lignes par trois lignes.
Oui, mais c'est là que j'avais oublié. Et le lendemain matin, mon père m'a demandé « T'as fait tes devoirs ?» Et je lui ai dit « Oh non, j'ai oublié !» Et après, je lui ai dit « Ah non, c'est pas grave, il n'y avait que la dictée. » Après, je me suis souvenue qu'il y avait la poésie. Donc, j'étais un peu stressée parce que je me disais « Mais c'est m'interroge !» Et si j'étais... Voilà, je voulais vraiment pas qu'elle m'interroge et tout et tout. Mais après, heureusement, elle m'a pas interrogée.
Tu penses que tu passes combien de temps par jour à faire tes devoirs ?
Ça prend 5 minutes, puisque c'est des trucs qui sont pas longs à faire.
5 minutes par exercice ou 5 minutes en tout ?
En tout, parce que vraiment, alors que mon frère, c'est un peu plus long.
Ton frère, c'est plus long ?
Bah, beaucoup, parce que il est au collège et c'est plus difficile.
Est-ce que tu préférerais ne pas avoir à faire de devoirs ?
Oui et non, en fait, parce que oui, t'as plus de moments pour jouer, tout et tout, et non, parce que sinon, en fait, les devoirs, ça t'apprend beaucoup de choses.
Là, par exemple, pour demain, j'avais une évaluation d'allemand et des exercices de maths. Je m'appelle Adrien Jousse, je suis en 6e, j'ai 11 ans et voilà. Pour mardi prochain, oui, j'ai une éval d'SVT mardi prochain.
Sur quoi ?
Sur les êtres vivants.
Et là, comment tu vas faire pour réviser ?
Ce que je fais, moi, c'est que donc, je relis tout ce que j'ai écrit. Tout, trois fois, et j'essaye de, et avec ma mère, elle m'interroge, et si je sais à peu près bien, et j'ai plus besoin de réviser, je le sais bien, et si je le sais plus très bien, je relis encore trois fois, et jusqu'à ce que j'y arrive bien. J'apprends pas par cœur toute la leçon, mais j'apprends l'idée générale. Je travaille le plus souvent tout seul, oui, tout seul quasiment tout le temps.
Et ça, depuis quand est-ce que tu fais la plupart de tes devoirs tout seul ?
Je pense que je le faisais déjà un peu avant le confinement, mais surtout grâce au premier confinement où il n'y avait pas école, c'est là où j'ai commencé à être vraiment autonome.
À ce moment-là, tu étais en CM2 ?
Oui. Ça dépendait. En fait, notre maîtresse, elle nous envoyait ce qu'on devait faire par mail. Donc je ne prenais pas trop de temps à les faire, mais dis donc, je faisais la moitié le matin et l'autre moitié l'après-midi. C'était comme ça que je m'organisais. Si tu veux être un bon élève, il faut faire ses devoirs, quoi, par exemple. Et moi, j'ai envie d'être un bon élève, donc je fais mes devoirs. Même si j'aime pas trop ça. J'ai pas le choix.
C'est quoi tes notes, à peu près, là, en 6e ?
Là, je veux pas monter, mais j'ai une plutôt bonne moyenne, je trouve. 19 sur 20 de moyenne générale.
Est-ce que ça t'a déjà stressé, les devoirs ?
Quand c'est des évaluations, ça me stresse. Je me dis, est-ce que j'ai tout bien révisé ? Est-ce que je le sais bien ? Est-ce que des fois, quand j'arrive pas à m'endormir, je me lève et je révise encore un peu. Comme ça, je me dis, bon allez, là j'ai bien révisé, j'aurai forcément une bonne note ou des choses comme ça.
Tu sors de ton lit, tu te mets à ton bureau ?
Oui, juste pour 5-10 minutes, mais ça m'aide à m'endormir. J'ai déjà rêvé que je ratais totalement une évaluation et que c'était pas très cool. Mes parents me criaient dessus, tout le monde me criait dessus, tout le monde était déçu de moi et tout. Mais je me faisais exclure de l'école ou je sais plus quoi, ça partait hyper loin quoi. Genre, je risquais de tout rater ma vie, tout allait mal. C'était pendant la 6e, c'était il y a pas très longtemps.
Eh bien dis donc, quel stress les devoirs, Anne-Marie Guénard.
Oui, alors vraiment, les deux témoignages là m'ont beaucoup plu. Adrien, évidemment, en dernier. Et puis, l'histoire de la camionnette, le tramway, la dictée, tout ça, oui. On a des parents présents ou pas, d'ailleurs. La preuve, c'est qu'Adrien, apparemment, travaille seul depuis un petit moment. On sent qu'il est un peu stressé. Jusqu'à cauchemarder. Alors ça, je trouve ça... comme quoi le subconscient envoie à l'enfant la crainte de ne pas réussir. Et puis aussi l'image qu'on envoie à ses parents quand les notes arrivent et que c'est pas bon, quoi.
Ouais. Anne-Marie Guénard, ce papa aussi qui nous dit pendant le reportage « Je passe plus de temps à contrôler les devoirs de ma fille qu'à l'aider à faire ses devoirs ». Ça nous renvoie un message d'un auditeur, Marcelo, à Mbujimaï en RDC, qui nous dit « Souvent, les parents, au lieu d'aider l'enfant à travailler son devoir, répondent à leur place. Veuillez insister sur ça ». Ça, c'est pour vous, Anne-Marie Guénard. À mon avis, c'est un message d'enseignant. Mais c'est vrai que les parents ont tendance à aider pour que ça aille plus vite, finalement. C'est un peu un problème, à votre avis ?
Ah oui, oui, mais ça dépasse même l'entendement. Y a énormément de parents qui font le devoir à la place de l'enfant et ça repart en classe en l'état. Ne serait-ce que pour avoir la paix. Alors souvent, c'est un climat dans ces familles-là, quand ça se passe comme ça, c'est que le climat n'est pas bon, que l'enfant est en panique générale. Et puis, c'est passé du temps aussi. Oui. Le temps des devoirs. Et donc, il faut bien organiser tout ça. Et dans certaines familles, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'organiser mieux. Et du coup, pour avoir la paix, pour que ça aille plus vite, c'est les parents qui font à leur place. Bon, ça, c'est vraiment à bannir.
Ça veut dire qu'il vaut mieux perdre du temps à apprendre l'autonomie à ses enfants
pour gagner du temps ensuite parce qu'ils travailleront seuls. C'est un calcul à moyen et long terme qu'il faut faire en tant que parent ou pas.
Parce que
ils veulent des recettes, hein, les
oui,
auditeurs.
Oui, mais ce qu'il faut, c'est leur apprendre tôt à travailler tout seul. La preuve que c'est possible. Hein. À 7 ans, notre petite Louise, là, elle s'en sort pas si mal. Donc, c'est la confiance que l'on va accorder, en fait. Le temps qu'on va y passer et l'endroit où ça va se passer. Voilà. Et donc, dès qu'on peut les mettre au travail en autonomie, avec l'aide d'Hugo prend son envol, c'est exactement ça.
À partir de quel âge un enfant est capable de travailler
seul ? Pour moi, à partir de 6-7 ans, il faut y aller. Parce que la sixième arrive tellement vite, hein, dans cette entrée au collège, et là, ils vont se retrouver en difficulté s'ils n'ont pas pris l'habitude de travailler seul.
Alors, vous l'avez entendu dans le reportage de Charlie Dupio. Charlie demande à Louise, 7 ans, combien de temps tu passes à faire tes devoirs ? Bon, elle dit 5 minutes. En fait, elle n'a pas la notion, elle ne sait pas.
Non. On sait qu'un enfant, à partir de 5 ans, a tout juste acquis le fait que ce soit le matin, l'après-midi, la soirée. On est loin d'avoir une montre à son poignet et d'avoir des repères temporels qui sont pourtant nécessaires en classe. Et aussi, quand on rentre de l'école, moi je leur dis, pose ton cartable, mets-le le plus loin possible de tes yeux, oublie-le. T'en as pour aller 25 minutes, 30 minutes, ouais. Une vraie pause.
Alors, vous conseillez même de mettre des alarmes, d'utiliser le téléphone portable des parents, de mettre des alarmes pour savoir quand est-ce que c'est le moment d'arrêter de jouer et de retrouver son cartable. Et surtout, vous conseillez beaucoup aux enfants de chronométrer une partie de leurs activités,
oui,
pour prendre conscience du temps qui passe.
Exactement. Par exemple... des enfants qui rentrent à la maison en disant « Bon, la dictée, je l'ai ratée » ou « je suis pas sûre d'être bon ou bonne ». Si tu lui dis combien de temps tu as mis à rédiger, à quelle heure la maîtresse a dit « Bon, la dictée démarre », à quelle heure tu l'as terminée, combien de temps t'as laissé pour te relire ?
C'est une enquête de police, là.
Mais n'empêche que c'est... Mais en sixième, quand ils vont rentrer avec des cours de 50 minutes, comment ils vont faire ? Donc, il faut absolument leur apprendre cette gestion du temps en disant, voilà, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour jouer, pour se reposer, comme n'importe quel adulte aussi qui en aurait besoin en rentrant à la fin de la journée. Le temps des leçons en primaire ne devrait pas dépasser 25 à 30 minutes. Si on est à 2 heures, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est ce que j'explique dans Hugo prend son envol.
Un message de Mamadou qui est à Conakry, en Guinée. « Je ne manque pas de volonté pour aider mes jeunes frères et sœurs à faire leurs devoirs, mais c'est difficile de les canaliser. Surtout quand ils sont plus que deux, ils sont distraits, pas concentrés. Finalement, je me sens très frustrée et je finis par abandonner. » Et puis, il y a un message aussi de Brice à Yaoundé, au Cameroun, qui nous dit « L'environnement de travail influence la manière dont se déroule la période des devoirs. Il est prouvé qu'un endroit qui correspond aux besoins, aux particularités de l'enfant... aura un effet positif sur sa motivation et donc sur ses apprentissages. » Alors, entre le problème de Mamadou avec ses petits frères et sœurs et la réflexion de Brice, comment on fait pour... Vous conseillez d'instaurer des rituels pour démarrer les devoirs, pour être au calme, pour...
C'est ça. En fait, j'aime bien ce que dit Brice, et il a complètement raison. L'endroit, c'est essentiel. Trouver l'endroit où, et puis pas forcément ce que j'explique dans mon bouquin, assis à une table en disant « lis, apprends et récite-moi ça ». Non, laissez-les bouger. Il y a énormément d'enfants qui apprendront mieux debout que assis. Ça commence par là.
Ou en marchant avec son cahier.
Exactement, tourner en rond. Je leur explique que souvent d'ailleurs, ils ne tournent pas en rond n'importe comment. Ils tournent en rond dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui fait qu'ils font marcher les deux hémisphères de leur cerveau pendant ce temps-là. Vous voyez ? Donc ça, c'est important. Du coup, il n'y a pas de surdosage. Si je suis complètement à gauche, c'est j'apprends. Notre cerveau gauche, il est habitué à ça. Et puis voilà, qu'est-ce qui va rester de tout ça ? Mais si je mets à l'intérieur de j'apprends un peu plus, c'est-à-dire du coup, je vais à droite, à quoi ça va me servir ? Pourquoi est-ce qu'il faut que je sois bon à l'école ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc en fait, il faudrait faire grandir nos enfants, peut-être un tout petit peu plus vite. C'est vrai que l'enfance, c'est important. Mais à un moment donné, dès qu'on est dans le primaire, c'est parti. La classe de maternelle, elle est faite pour ça. C'est-à-dire, on est encore dans le jeu. Là, on passe dans le sérieux. Et donc, il faut trouver l'endroit. Ouais. Le bon moment, très important, le bon moment. C'est-à-dire, combien de temps tu as été en pause ? Alors, quand vous disiez, je mets des alarmes un peu partout. Oui. Oui, quand le temps de pause est fini, allez. Ouvre ton cahier, débrouille-toi, fais l'école inversée, amuse-toi à me trouver les bonnes questions avec ce chapitre que tu es en train d'étudier. Il faut savoir à quel moment l'enfant est largué ou pas. Et s'il a compris, c'est-à-dire qu'il est capable de vous raconter une histoire, ouais, que ce soit en maths, en physique, partout.
Mais les parents qui nous écoutent et qui se disent « mais déjà, mes enfants n'arrivent pas déjà à se concentrer, à se recentrer sur ce qu'ils vont faire », c'est ce que nous disait Mamadou.
Mouvement croisé. Ça, c'est la meilleure solution. Donc, ces quatre mouvements qu'on peut retrouver dans Hugo et les secrets de la mémoire, par exemple, c'est comme ça qu'on va le reconcentrer. Il y a aussi ce que j'appelle le 8 à plat.
Alors, attendez, faire. Mouvement croisé, c'est-à-dire ?
Mouvement croisé, c'est quatre mouvements du quatre pattes du bébé, mais debout. Donc, le mouvement, le premier, c'est main droite sur cuisse gauche. Ensuite, on envoie sa main vers l'arrière. Ça, c'est la marche arrière. Donc, main droite, cheville gauche. Et on inverse à chaque fois.
Ah oui, on commence à faire de la gym.
Ensuite, c'est le coude sur la cuisse, en avant. Et puis, le dos de la main sur le mollet. Il y a quatre mouvements. Et là, vous lui faites faire ça autour de la maison, dans le jardin ou même dans le salon. Ça y est, en fait, il a allumé les deux hémisphères de son cerveau. Il est prêt à travailler.
Attentif. Ouais. Vous conseillez aussi de faire... Il n'y a pas une histoire de 8 si. Dans l'air, là, avec son doigt.
Voilà.
On dessine un 8 horizontal.
En fait, c'est ce que j'appelle le 8 à plat. C'est le signe de l'infini. Donc, il faut le faire plutôt pour des enfants en bas âge qui sont un peu turbulents. Le faire à plat sur le dessus de sa table, en le regardant fixement et en allant doucement, faire un 8 à plat. Et donc, du coup, ça, là encore, ça réveille les deux hémisphères. Pour être bon dans ce qu'on fait, il faut être pleinement là.
D'accord. Bon, bah là, on est en train de faire des 8, hein, toutes les deux sur la table.
Mais oui, mais voilà. Oui, mais vous savez que c'est un geste réflexe. Il y a des gens qui vont le faire avec le bout de leur crayon. Ils ne s'en rendent même pas compte.
Est-ce qu'il y a des phrases, Anne-Marie Guénard, à ne jamais prononcer quand on aide son enfant à faire ses devoirs ?
Ah bah c'est clair. Oui, du genre « qu'est-ce que je vais faire de toi ? Tu n'y arriveras pas ? Enfin, c'est pas possible, ça fait 10 fois que je te l'explique.
Voilà. » C'est quand même pas compliqué.
C'est quand même pas compliqué. Donc oui, évidemment, moi je les ai entendues ces phrases-là. Et c'était les heures d'angoisse. Enfin voilà, moi j'ai été pas maltraitée, mais en tout cas incomprise sur mon incapacité à mémoriser. Et donc, tout ce qui est phrase comme ça qui percute le cœur, c'est pas bon. Donc, ouais. Il vaut mieux éviter.
Ça veut dire qu'ensuite, la séance de devoir ne peut pas être productive.
Absolument.
Si on commence comme ça.
Dès que l'enfant a peur, vous pouvez dire que ça y est, c'est fini. Voilà. Donc, il faut rassurer, lui faire confiance, lui dire que vous avez confiance en lui, que vous êtes là pour l'aider, qu'il cherche un peu tout seul... qui viennent vous voir pas n'importe quand et pas n'importe comment.
Alors quand la situation a dérapé, qu'il y a eu des cris ou en tout cas des phrases pas très aimables, des petits énervements, comment on fait ? On arrête tout, oui. On va boire un verre d'eau. Comment on fait pour faire reset quoi ?
Oui, il faut tout arrêter. Alors l'idée du verre d'eau est pas mal parce que notre cerveau a besoin d'eau. Donc profitons-en pour passer le message. En fait, on peut comprendre qu'une maman ou un papa se mette en colère, mais à un moment donné, il faut baisser d'un ton... essayer de reprendre confiance et en lui et même en la personne qui crie. Hein, et puis, essayer de trouver le calme avant de se remettre au travail. Et si c'est raté pour ce soir-là, ben c'est raté pour ce soir-là. Oui. La planète ne s'arrêtera pas de tourner pour autant.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole, que vous soyez enseignant, parent et qui avait des difficultés pour les devoirs avec les enfants. Je crois qu'on a un enseignant qui est au téléphone avec nous. Ismaïla est à Nouakchott. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde.
Soyez le bienvenu, merci de nous appeler. Votre témoignage est intéressant, Ismaïla, parce que vous êtes enseignant vous-même.
Hein. Oui, j'ai enseigné arabe dans une école privée.
D'accord, à Nouakchott, en Mauritanie. Donc. Qu'est-ce que vous constatez par rapport... Vous donnez des devoirs à vos élèves, j'imagine ?
Oui, nous, à chaque fois, on donne des devoirs à faire à la maison. Mm-hmm. Mais si vous voyez certains élèves, ils font les devoirs le lendemain matin en classe.
Ah oui, juste avant que vous n'arriviez, ou presque.
Oui. Certaines fois, même en route, en partant à l'école, certaines essaient de faire les exercices en route. Et vous savez que ça, c'est la vérité, qu'il n'y a pas de suivi à la maison.
Oui. Vos élèves, ils ont quel âge, Ismaïla ?
Il y a entre 8 et 10 ans, comme ça. Mmh.
Et, ouais. Et quand vous dites qu'il n'y a pas de suivi à la maison, quel est le problème ?
Le problème, c'est qu'il n'y a pas une liaison entre les enseignants et les parents d'élèves. Mmh. Oui, si un parent, vous avez mis votre enfant à l'école, je pense qu'il va falloir à chaque 2 semaines ou bien venir voir l'enseignant et de dire comment se passent les choses. Et mon enfant, il va comment, voilà.
Mmh. Et est-ce que vous pensez que c'est dû aussi à des parents qui eux-mêmes ne sont pas allés à l'école, qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne ?
Voilà, c'est le problème, c'est dit, quand un parent est analphabète, désolé pour le terme, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la valeur des études, donc forcément ses enfants ont des difficultés là à bien se concentrer dans les études. Mmh.
On peut ne savoir ni lire ni écrire et très bien comprendre la valeur des études, hein, justement. C'est peut-être pas forcément, mais par contre, après, la méthode pour faire des études, c'est effectivement un autre problème. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'enseignant, pour expliquer soit aux enfants, soit aux parents, qu'il faut passer un tout petit peu de temps le soir pour réviser certaines notions que vous avez enseignées ?
Moi, à plusieurs reprises, je convoque certains parents pour les voir, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que les parents, certains, ils occupent leur travail beaucoup plus que les enfants. Donc, si j'ai un parent, je vais lui dire, bon, il faut visiter les cahiers d'élèves. Est-ce qu'il a des exercices ou pas? S'il a des exercices, il faut l'obliger de les faire. Voilà, ça se passe comme ça.
Ouais. Et vous avez envisagé de ne pas donner du tout de devoirs, justement, en constatant que les élèves ne sont pas dans un environnement favorable pour les faire à la maison?
Voilà, juste tout ça c'est dit au téléphone, au télé, voilà, les enfants ils se concentrent plus qu'à la télé ou ils jouent sur les smartphones, voilà. Et ça impacte beaucoup sur les éducations des enfants.
Ouais. Anne-Marie Gagnard, est-ce que vous souhaitez réagir? Peut-être qu'on pourrait donner des devoirs sur le téléphone.
Oh ben, ça marcherait forcément, ça c'est sûr.
Avec un jeu.
Ouais. Merci Ismaïla pour votre témoignage. C'est vrai qu'il faudrait pratiquement éduquer, j'ai envie de dire, les parents par rapport à ce travail, ce temps de travail du soir. Et je pense que oui, tant qu'il n'y aura pas de dialogue régulier en essayant d'encourager les parents, ça sera toujours très compliqué parce qu'ils ont besoin de leurs parents comme chez nous. Hein, je vois pas la différence. En fait, là où c'est plus compliqué, c'est est-ce qu'ils se sentent à la hauteur de l'accompagnement. C'est ça le truc. Et je pense qu'il faut peut-être faire une réunion générale. Convoquer tous les parents et leur dire voilà comment ça se passe à l'école. Moi j'attends ça et ça de vous, par petits morceaux. Ouais. Ça pourrait être une solution.
Sans les culpabiliser, à mon avis, hein, mais plutôt faire équipe avec, ouais. Avec les parents. Merci Ismaïla en tout cas d'avoir pointé ce problème de Nouakchott en Mauritanie. Merci à vous, très bonne journée. Et vous continuez de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Comment rendre son enfant autonome pour les devoirs à la maison et du coup, rendre ce moment plus agréable. Vous nous appelez pour poser vos questions en direct. Allez, on va se détendre un peu en musique. D'ailleurs, est-ce qu'on peut utiliser la musique pour faire baisser la pression pendant les devoirs?
Ah, ça c'est génial.
Le nouveau son du kologo ghanéen, un instrument à deux cordes. Allez voir la vidéo, ils sont très très forts. Allost Men et One Love de Kubolor. Everybody, bring your dancing shoes. Come, let's party. I wanna see you move. Everybody, bring your dancing shoes. Come, let's party. I wanna see you move. Follow up. Before the banjo, kologo there before the oud, kologo there before the guitar, kologo there before the lute, kologo there before Ghana, kologo there before my youth, kologo there before my mother, kologo music be the root.
First time I hear Kologo music, then I de la body beach. The rhythm catch me with the lyrics, no dry bridge. Do something before you die, that be what I de guide. Also a very blue sky, then I chop like nine. Later I hear Captain Yaba and Atungu, followed by Kinayi Suba from Bongo. He wanted to see his father. We shoot Lukumashu for Nima. No chewe, I meet Ayongo, I can be it. We do muttons, travel plus African gypsies. He tell me of Sule and more about Kologo. He say them all, it be Sambo be the Kologo Zologo Kologo.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI, nous parlons éducation comme chaque semaine. Aujourd'hui, on discute des devoirs à la maison, un moment qui n'est pas forcément facile pour les parents qui veulent aider leurs enfants à aller plus vite. Alors, comment les rendre davantage autonomes? Anne-Marie Gagnard, vous publiez « Hugo prend son envol », un conte pour apprendre à travailler seul aux éditions Le Robert. Hugo, c'est un garçon qui se sent en fait un peu dépassé par la masse de travail à l'école comme à la maison. Donc il est angoissé, il est découragé, il n'a pas de bonnes notes et il va remonter la pente grâce à votre méthode que vous proposez dans le livre. Redites-nous quelques grandes lignes sur cette méthode.
En fait, je suis partie d'abord sur la notion du temps qui est importante, à la fois de se repérer dans la journée, le temps de travail à l'école, combien de temps j'ai passé à faire tel exercice, tel autre. Je leur dis, équipez-vous d'une montre, c'est la moindre des choses. Mettez-leur une montre au poignet et regardez le temps qui passe. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi toute cette notion de courage. La constellation des C, justement, où là, c'est quoi le courage? Pourquoi est-ce qu'il faut que je me mette absolument au travail? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment on peut voir plus loin que l'année où on est en CP, en CE, etc. Ce qu'il faut, c'est voilà, essayer de garder les rêves d'enfant, de ne pas les casser. Si votre enfant dit « je veux être vétérinaire », si vous lui répondez « bah écoute, quand tu seras bon en maths, on pourra en reparler », ça y est, il y a des rêves qui se perdent. Donc il y a toute une histoire de mise en place, d'organisation générale, que ce soit le temps, l'endroit, la manière de faire, à quel moment je vais le laisser tout seul, à quel moment je vais revenir voir, essayer de leur donner un peu plus d'autonomie que ce qui peut être aujourd'hui source de conflit, en fait.
Ouais, ça ne veut pas dire, bien sûr, lâcher sur les exigences, hein, être positif. On conserve les mêmes exigences,
oui,
les mêmes ambitions, mais avec des phrases plus positives. Je vous redonne notre numéro de WhatsApp pour nous contacter et discuter avec Anne-Marie Gagnard, 33 7 64 45 51. 41. On accueille Claude qui nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Claude.
Bonjour Emmanuel, c'est un plaisir de repasser dans cette émission.
On est ravis de vous accueillir. Oui, alors j'ai l'impression qu'il y a un petit problème sur la ligne de téléphone. Est-ce qu'on essaye de rappeler Claude qui est papa de trois filles, 9, 7 et 3 ans et qui se donne du mal pour aider ses enfants pour leurs devoirs, en tout cas pour les deux aînés, avec la maman également et qui, chacun son tour, donc passe du temps à aider les enfants à faire leurs devoirs. Claude, vous êtes bien en ligne avec nous ? Ah, on vous rappelle. On le rappelle, me dit la régie. Une question en attendant sur la méthode. À l'école primaire, puisque votre livre s'adresse beaucoup aux enfants à l'école primaire, vous nous l'avez dit, pour rendre son enfant autonome, c'est pas quand l'enfant a 12-13 ans qu'il faut commencer. Hein. C'est
non.
Quand l'enfant est beaucoup plus jeune,
oui.
6 ans, 7 ans, 8 ans, il peut déjà faire des choses tout seul.
Voilà. Même dès le CP, en fait. Mmh. Oui, oui.
Le cours préparatoire. Il y a souvent des choses à apprendre.
Hein. Oui.
On est beaucoup dans la mémorisation. Comment on fait pour qu'un enfant comprenne quelle va être la méthode qu'il peut appliquer seul?
La meilleure des méthodes que j'ai pu trouver avec les 7000 enfants qui me sont passés entre les mains, c'est de passer par sa main, de dessiner au maximum. Moi, je dis toujours, et Einstein disait ça, si tu n'es pas capable d'expliquer à un enfant de 7 ans, c'est que toi-même, tu ne l'as pas compris. Explique-moi ta leçon. C'est quoi cette histoire ? Et ça commence, déjà, ça renverse la vapeur. Donc, ça donne une autre façon de travailler, une autre approche. Explique-moi. Si tu étais la maîtresse, qu'est-ce qui te semblerait le plus important? Donc, ils sont capables de le trouver. À partir de là, on va apprendre mieux. Donc, plus on peut dessiner, vous allez me dire, c'est bizarre. Non, vraiment, plus on dessine, plus c'est concret et plus on va rentrer dans la leçon. C'est quoi l'histoire? Raconte-moi. Et trouve-moi les questions du devoir qu'elle va poser dans 2 ou 3 jours. Mmh. Ils sont tout à fait capables de les trouver. Hein. Moi, j'ai travaillé avec des tout-petits sur l'Égypte ancienne, par exemple. Voilà comment était géographiquement dessinée l'Égypte, quel le fleuve qui le traverse. Tout ça, ça se dessine. Que ce soit des maths, c'est pareil. Tout ce que tu peux passer par ta main. Donc, c'est la mémoire du fer et faillère qui se met en route. Et là, du coup, ça fait des petits miracles.
Ouais.
Mais vraiment.
Et vous conseillez même de faire des gestes quand on apprend une poésie, par exemple, de mimer?
Oui, oui, bien sûr. Plus on est debout, plus on gestue, plus on dessine et mieux ça marche. Et ça va vite, en fait. Et c'est toujours aussi le principe de placer ce qu'on a à retenir sur un cercle. et tourner en rond dans le sens des aiguilles d'une montre, ça c'est magique, et ne jamais dépasser le chiffre 7.
Allez, on redonne la parole à Claude, j'espère que la ligne téléphonique s'est améliorée, c'est pas de votre faute Claude. Soyez le bienvenu, on vous écoute Claude. Vous êtes papa de trois filles, hein, comme je disais, les deux aînés qui vont, alors la petite aussi va à l'école, mais elle a 3 ans, donc pas encore de devoirs, enfin j'espère, mais les deux aînés, 9 et 7 ans, ça y est, on commence à travailler à la maison.
C'est bien ça, Emmanuel, c'est bien ça. Et Emmanuel, merci de me faire passer encore sur cette émission qui m'a beaucoup appris, je vous assure. Et j'admire la qualité de vos émissions, je ne sais pas comment vous la choisissez. J'admire également la qualité de vos invités et vraiment bonjour à toute votre équipe.
Alors, je suis merci papa beaucoup, de trois Claude. Enfants.
Pardon. Alors, je suis papa de 3 enfants, comme vous l'aviez dit. Je me débrouille comme je peux. Je suis un peu profane, j'ai pas la pédagogie. Mais au quotidien, on s'organise pour pouvoir les aider, mon épouse et moi. Alors, très souvent, quand ils rentrent le soir, c'est d'abord mon épouse, puisqu'elle est là, elle est non loin de l'école. Elle va les prendre et puis elle essaie de le temps qu'elle se repose, de manger, de se reposer. Et puis après, elle essaie de voir ensemble avec elle, avec les deux premières, ce qu'ils ont fait à l'école. Mm-hmm. Et je leur ai demandé que très souvent, même s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent m'appeler. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a tous les moyens pour pouvoir se joindre. Il y a le téléphone, il y a Internet. Vraiment, merci à tous ceux qui l'ont créé. Et quand ils ont des difficultés, ils m'appellent au téléphone. Ils disent, papa, comment est-ce que, par exemple, ceci se passe? Comment est-ce qu'on écrit ceci? Comment est-ce qu'on conjugue cela? Bon, je leur dis, voilà, c'est comme ça. Bien, je peux me tromper. Vérifier aussi. Et merci. C'est comme ça qu'au quotidien, nous essayons de les accompagner. Déjà, il y a quelque chose qui est primordial pour moi. C'est-à-dire, le mettre en confiance. Bref, la présence et la confiance et de temps à autre, les apporter de l'appréciation.
Oui.
C'est capital pour moi. Oui. Parce que quand un enfant... et puis, je vais à savoir... toujours connaître s'ils ne sont pas stressés. Mm. Parce que quelquefois, vous voyez, les enfants n'ont pas l'envie d'aller à l'école parce que peut-être à l'école, il y a un camarade qui n'est pas très gentil avec elle. Soit c'est peut-être la maîtresse qui n'est pas bienveillante parce que nous, en Afrique, c'est un peu comme ça, malheureusement. Mais enfin, avec, c'est pour ça que mon épouse et moi, nous avons choisi de nous mettre à la tâche pour pouvoir les aider au quotidien, parce qu'à l'école, ils n'ont pas toujours ce qu'il faut pour pouvoir être dans les conditions adéquates.
Mmh. Donc, vous positionnez comme étant présent, mais plus un peu comme un accompagnateur. Hein. Vous ne cherchez pas à refaire la classe après la journée de classe, si je comprends bien, hein, Claude.
Non. Pas du tout, pas du tout. Je n'essaie pas de refaire, non du tout. En fait, j'essaie de les accompagner en disant, voilà, lorsque vous êtes à l'école, soyez organisés, écoutez bien ce que dit la maîtresse ou le maître, et puis recopiez bien la leçon, parce que même un mot oublié ou bien mal repris dans une phrase change totalement le sens de la phrase.
Oui.
Donc, soyez concentrés. C'est pas facile, c'est difficile. Nous, on a été comme vous. On n'était pas brillant, on était moyen, mais avec le temps, les choses sont arrangées.
Oui.
Et vous avez la chance.
Eh bien voilà, vous êtes très positif, Claude. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelés. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51. 41. Voilà des parents qui finalement disent qu'ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ça ne place pas des ambitions démesurées, mais c'est très positif, non ?
Complètement. Complètement, oui. Puis j'ai bien aimé la pédagogie par l'erreur aussi, en fait, dont il a parlé. Moi, ce qui me plaît bien, c'est le mot confiance qui a été utilisé. Et puis alors, ce coup de téléphone à papa en disant « Est-ce que tu peux m'aider ?» Ça, c'est chouette parce que c'est une vraie demande et c'est surtout qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Donc ça, c'est la confiance mutuelle entre un enfant et ses parents. Donc je vois que c'est monsieur et madame qui s'occupent, donc très bien. J'ai adoré le côté moyen. En tout cas, ce qui ressort, c'est la bienveillance. Et ça, ça me plaît bien.
Voilà. Et puis, on dédramatise. Alors, je voudrais quand même qu'on donne la parole aussi à une auditrice qui a posté ce message sur notre compte WhatsApp. Elle est à Yaoundé, au Cameroun.
Bonjour tous les voisins et toutes les voisines. Je suis la voisine Anne Pelagiotio du Cameroun, entrepreneur social. Moi, je me rappelle, j'ai une petite anecdote. Un soir, j'ai mon petit neveu à la maison. Il fait les études anglo-saxonnes et il a ramené un devoir de mathématiques. Ses aînés à la maison, qui sont aussi anglophones, n'étaient pas là et il a fallu que je l'aide un peu. Moi, j'ai été butée parce que moi, ayant fait des études francophones, moi, j'ai essayé de faire des calculs à la manière des francophones, mais l'enfant ne comprenait pas et puis du coup, ça m'a beaucoup stressée. Il fallait que j'essaye d'amener l'enfant à comprendre les calculs sous l'angle francophone, alors que les anglophones ont leur manière à eux de faire des calculs. Enfin, ça donne le même résultat, mais le procédé n'est pas le même en fait. En regardant un peu les cours de l'enfant et tout, j'ai pu m'adapter et finalement aider l'enfant à faire ses calculs à la maison le soir. C'est pas souvent évident. Nous les parents, moi particulièrement, je fais toujours les efforts quand je peux d'accompagner les enfants. C'est très important parce qu'il y a des questions là d'amener les enfants à pouvoir faire les devoirs seuls en fait. Donc les assister mais dans un processus d'autonomisation. C'est très important.
Plus largement, Anne-Marie Guénière, comment on peut aider son enfant quand on ne parle pas la langue de l'école?
Oui, ça, c'est plus compliqué, évidemment. Alors, l'idéal, c'est de repasser par l'enfant pour avoir le bon langage, parce que lui, il sait. Donc, il va vous dire, voilà, là, maman, j'ai ce problème-là. Donc, plus vous allez l'amener à vous expliquer là où est le problème, pourquoi ça ne marche pas, plus il va vous détailler les choses et mieux vous allez pouvoir l'aider, en fait. Mais c'est lui qui sait. C'est ça, la différence. Et bon, par exemple, je sais en France qu'il y en a qui en profitent.
C'est-à-dire
hein? Quand il y a double langage, par exemple, je ne sais pas, en banlieue, une maman qui n'a pas appris la langue française, l'enfant, il va aller peut-être plus vite lui seul parce qu'il sait qu'il n'aura pas l'aide. Là, c'est différent. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, là, ce qu'il est en train de me raconter, moi, je n'ai pas ce système-là, mais plus vous le ferez parler, plus vous lui direz, explique-moi, moi, je ne sais pas, là. Voilà, et mieux ça va fonctionner. Et ils ont cette capacité à réfléchir en vitesse de la lumière et de presque vous venir en aide, vous les parents. C'est ça qui est chouette.
Très honnêtement, il y a quand même des réformes successives dans la façon d'enseigner, des méthodes qui changent. Et on a des parents qui, même s'ils maîtrisent la langue de l'école, disent « mais je ne comprends pas comment tu peux faire cet exercice de maths avec cette méthode-là. Moi, je n'ai pas appris ça comme ça. »
Oui, c'est vrai. Ben oui, 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 c'est pour ça qu'il faut les faire intervenir le plus possible. Ressors-moi ton cahier, je vais aller jeter un coup d'œil. En fait, je veux bien t'aider, mais laisse-moi le temps de comprendre le langage de l'école pour que moi, je puisse te venir en aide. Et c'est important de ne pas laisser passer ça. Parce que si on démissionne, là, c'est compliqué. Parce que quand on sent que les parents ne sont plus derrière, là, c'est un peu panique générale.
Allez, il nous reste quelques secondes, Anne-Marie Guénière. Oui, ça passe déjà trop vite, mais peut-être les derniers conseils pour les parents qui nous écoutent attentivement, pour que leurs enfants soient davantage autonomes et que tout se passe bien.
Essayez de leur laisser le temps de travailler seuls, d'avoir un temps où ils reviennent vers vous. Donc, ce temps, il est prévu à l'avance, il ne déboule pas comme ça. Ça, c'est très important. Pose-moi la bonne question. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Formule-moi ta question et on va retravailler ça ensemble. Mais ils sont tout à fait capables de faire 90% du boulot tout seul.
Merci à vous, Anne-Marie Guénière. Hugo prend son envol. C'est un conte pour apprendre à travailler seul. C'est édité aux éditions Le Robert. Merci à vous, Anne-Marie.
Merci beaucoup. Merci aux auditeurs et auditrices qui étaient présents. Et un petit clin d'œil à Yaoundé, à mon asso, Andy Up, qui travaille aussi sur l'inclusion des enfants handicapés. Et je les soutiens et je suis très fière.
Et vous reviendrez nous en parler.
J'espère.
Dans quelques instants, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud. Mais tout de suite, allez, une valeur sûre pour passer une bonne journée. Tiens, pourquoi pas à Lagos d'ailleurs, avec Wizkid, Smile.
To level my mistakes, company creates companions. So right, yeah, yeah. Baby, both say I love your smile. Girl, I love it when you smile. Go light, go light. I love your laugh. Do anything for my love.
it feel right? Say you need me in your life, your whole life. You do whatever I say, you would never hurt me. Loving made me feel amazing inside. Oh, I. You're the only one I need and the only one I see. Love the way you talk to me and I love your energy. Cause you make it look easy. My everything, babe, believe me. There ain't nothing I won't give, there ain't nothing I won't do. You're the only one for me, nobody else but you. Cause you made me feel lucky. You know it's yours, baby, just me. Trust me, I know.
I love your laugh, yeah. I love it when you smile. See, I would do anything for my love, yeah, yeah. I would do anything for my love, yeah. Oh, Lord, run inside a beating up in flames just to play with my love, yeah, yeah, yeah. I would do anything for my love, oh, Lord. You're just a blessing to me. I thank Baba God for your love. Hold on, my baby. Show me what I couldn't see. My love for you can never go blind. I wanna be by your side. Tell me when you need me, baby, I go to your side. Kiss you every morning, baby, I go hold you tight. Treat you like no other, every day love all our time. Mama gave me forever, be my paradise. Honey, you're my sugar, you the sweet like Caroline. Baby, you're my prisoner, I go give you all my time, oh. Sweet baby G, so loud, so loud.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, avec le psychologue Ibrahima Giroud. Bonjour Ibrahima Giroud.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, vous nous parlez de l'angoisse des jeunes devant leur avenir. Comment faut-il comprendre cette angoisse quand on est parent ?
Emmanuel, les jeunes se posent les mêmes questions en réalité que les adultes en ce qui concerne leur avenir. Qu'est-ce que l'avenir leur réserve ? Alors, quand on est issu de milieux économiques pauvres, ces questions se posent avec une singulière acuité et même parfois avec violence. Certains arrivent à en parler clairement et à chercher de l'aide et puis à trouver donc des solutions pour s'en sortir. Mais d'autres, malheureusement, n'ont pas toujours les mots pour exprimer leurs craintes. Et c'est peut-être ceux qui en souffrent le plus en réalité, parce qu'ils ne semblent même pas comprendre ce qui leur arrive et s'interrogent toujours sur ce qui leur tombe dessus.
Oui, et ce n'est pas évident. Alors, comment aider les jeunes à garder confiance en eux et en l'avenir dans ces cas, dans ce contexte tellement difficile ?
Disons, Emmanuel, il faut voir que tout s'apprend. La confiance en soi, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la confiance en soi, elle se construit tout comme la motivation. Tant que l'individu pense que les choses lui arrivent de manière chaotique, il n'a aucun espoir et aura du mal à croire qu'une solution est possible. Voilà pourquoi la première chose à faire pour aider les jeunes est de les amener à un questionnement rationnel, sans chercher à les culpabiliser non plus en leur disant que c'est leur faute. Non. Oui. Donc je voudrais saisir cette opportunité, Emmanuel, pour regretter que les enseignements des sciences de la vie animale comme végétale se fassent de manière profane, hein, sans permettre à nos enfants de tirer les leçons essentielles à leur maturation psychologique et morale.
Mais comment ça permettrait de leur donner confiance en eux, ces sciences de la vie ?
Disons, si on prend le cas du développement de la plante, par exemple, on voit très bien qu'il n'y a rien de chaotique. C'est l'idée du chaos qui n'est pas bon. Il faut enlever le chaos pour montrer que les choses, le monde est rationnel et intelligent. Donc, si vous prenez le cas du développement de la plante, on voit qu'il n'y a rien de chaotique. Les séquences s'enchaînent de manière parfaite et harmonieuse et avec beaucoup d'intelligence. Il en est de même dans la biologie humaine, dans le développement cellulaire. Et on comprend que le monde est bien fait et que chacun peut y trouver sa place si chacun apprend à lire comment le monde est écrit, ou plutôt comment il s'écrit, parce qu'en réalité, rien n'est statique, tout est en constant
évolution,
mouvement.
Évolution, oui.
Exactement. Et dans beaucoup de cultures africaines, par exemple, on dit que Dieu n'a pas créé le monde, il l'a écrit. Nous ne serions pas des créatures, mais des écritures. En wolof, on parle de bindef, ça vient du verbe bind qui signifie écrire. Donc nous ne serions donc écrits, et donc selon une certaine grammaire et des règles. Dans ces conditions positives, tout le monde peut réussir, Emmanuel, et s'épanouir à condition que chacun apprenne à décoder, à lire ce qui est écrit ou ce qui est en train de s'écrire. Donc lire correctement, la principale condition pour réussir et s'épanouir, Emmanuel.
Et concrètement, comment enseigner aux jeunes à lire leur propre destin? Parce que c'est ce que vous proposez finalement.
Tout à fait, Emmanuel. C'est le rôle de chaque éducateur que d'apprendre à son enfant à lire. Du coup, vous voyez, ça change complètement la vision qu'on avait du rôle du parent. Nous avons besoin de donner un message pratique et positif aux jeunes. Le premier message positif est que l'avenir n'est pas, mais il se construit et que les jeunes ont les moyens entre leurs mains de faire leur place. Ensuite, il faudra les accompagner psychologiquement et moralement en évitant de donner le sentiment que nous allons faire les choses à leur place. Ce sont eux qui devront les faire, car c'est leur avenir qui se joue et non le nôtre en tant que parents ou responsables. Ça également, ça doit être clair. Il faut également ensuite, Emmanuel, commencer avec des choses les plus simples et les plus à portée de main des jeunes. On peut identifier ces choses en demandant par exemple aux jeunes ce qu'ils aiment le plus. Parce qu'en réalité, on a beaucoup plus de chances de tomber sur ce qu'ils maîtrisent. C'est-à-dire, ils vont plus aimer ce qu'ils maîtrisent, d'une certaine façon. Et à partir de là, on peut faire attention de ne pas sous-estimer ces choses-là qu'ils maîtrisent, même si ça peut ne pas être important pour nous, parce qu'en réalité, il n'y a pas de domaine inférieur à un autre.
Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas dévaloriser les compétences des jeunes, hein. Il ne faut pas non plus être complaisant. C'est vrai qu'une partie de l'angoisse des jeunes vient d'un manque de valorisation de leur personne, de leur capacité, de ce qu'ils sont.
Tout individu a besoin de se sentir valorisé. Le plus important est que le jeune perçoive clairement que ce sont ses efforts et sa persévérance qui vont l'amener à exceller et à aimer ce qu'il réussit. Donc le monde se laisse transformer par ceux qui agissent dessus. Hein, cela est vrai partout. Si vous prenez le cas des paysagistes, Emmanuel, ils façonnent la nature et lui donnent une beauté avec leur touche personnelle. Donc le monde se laisse transformer. Si vous prenez le cas des agriculteurs, ils organisent la terre, la façonnent, lui confient des graines et en tirent les meilleurs fruits et les meilleurs légumes pour l'humanité. C'est avec des exemples pratiques et simples et faciles à vérifier comme ça, que les jeunes pourront surmonter leur angoisse et faire confiance en l'avenir, en agissant résolument dans le présent.
Voilà, mieux comprendre sa vie, mieux comprendre son destin. La question de la semaine pour des conseils aux parents qui épaulent les jeunes, Ibrahima Girou.
Emmanuel, voici ma question pour les parents cette semaine. Comment ne pas voir que l'angoisse des jeunes face à leur avenir vient de ce qu'ils perdent de pied dans le présent ?
Comment ne pas voir que l'angoisse des jeunes face à l'avenir vient de ce qu'ils perdent pied dans le présent? C'était la question de la semaine du psychologue Ibrahima Girou. À méditer jusqu'à votre retour, Ibrahima Girou. Merci encore pour votre chronique. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Très bonne journée à Dakar.
Au revoir, Emmanuel.
Demain, 7 milliards de voisins, nous serons de retour pour une nouvelle émission. À demain, les voisins.
7 milliards de voisins, c'est fini.
Ce samedi sur RFI.